comme à l'habitude, c'est le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin pour parler UX. Bonjour Jean-François.
Bonjour Bruno.
Jean-François, avant qu'on parle de l'entrevue de cette semaine, je veux absolument que tu me glisses un mot sur un événement que tu es en train de préparer. J'ai vu ça sur LinkedIn. C'est quelqu'un que tu nous as déjà présenté dans mon carnet. C'est quelqu'un de fascinant avec une expérience hors du commun. Et tu l'amènes à Montréal et les gens vont pouvoir la rencontrer et avoir de ses conseils.
Ben oui, juste avant la pandémie, on a eu l'occasion d'avoir Célia Oden qui est venue nous faire une présentation sur un sujet similaire, puis ça avait rempli la salle quand même parce que on sait que Célia a travaillé chez Fortnite, donc elle a une certaine expertise dans la gamification, on s'entend, pour ce que ça a donné au niveau de Fortnite quand même. Et donc le 24 mai prochain, on l'a invité à venir donner une journée de formation. Il y a des billets, évidemment, c'est pas cette fois-ci une conférence gratuite. Et d'ailleurs, le sujet de la conférence, c'est psychologie cognitive, UX et gamification en développement de produits. Ça va être à la Maison Notman, coin Sherbrooke-Saint-Laurent. Et il reste des billets, évidemment, c'est 350 $ par billet. Donc, on a essayé de garder ça très peu cher. Ça inclut le dîner, ça inclut le café, les petits croissants, puis les trucs.
C'est une journée de formation, là.
C'est une journée de formation qui, normalement, ça va dans les 800-900 $ là, à Montréal. On essaie de le garder vraiment très abordable.
Et si on veut avoir plus d'informations, où on se rend?
Sur mes réseaux sociaux, vous allez trouver ça.
Excellent. Écoute, moi, je veux que tu me parles de tes invités de cette semaine. C'est un couple. C'est rare que tu reçois deux personnes en même temps. Et c'est pour parler de UX et d'innovation.
Exactement. Justement, parce que le sujet m'a attiré. Je couvre quelques événements avant de me rendre au WAC à la fin du mois, le Web à Québec, évidemment. Et j'ai vu ces deux conférenciers-là. Et donc, le sujet m'a intéressé, comme tu dis, c'est le design et l'innovation. Ça m'intéresse. Comment le design a des influences dans les organisations sur ce buzzword qui on voit un petit peu partout dans nos médias sociaux, à l'innovation, en plus de l'AI. Mais donc, j'ai parlé cette semaine avec Ganesh Baron-Alloire et Ami Robitaille, qui sont un couple, mais qui sont aussi deux associés dans un studio, le studio Transversal, et ils me parlent de ça. Ils me parlent de comment ils appliquent ça. Ils sont beaucoup dans l'événementiel. Hein. Ils ont eu une carrière, les deux, séparément, dans des entreprises, des grandes entreprises montréalaises qui font de l'événementiel, des choses dans le concret, on s'entend. Et donc, je t'ai fait parler là-dessus, puis j'ai trouvé la conversation intéressante. On parle de design thinking à un certain point, mais c'est ça, surtout du design et comment on arrive à créer l'innovation à partir de ça.
Bon, ben on va aller écouter ça sur le champ. Merci pour cette rencontre multiple que tu nous partages cette semaine. Et puis, bon, surtout la semaine prochaine.
Oui, absolument, la semaine prochaine.
Bye, Jean-François.
Bye.
Ben bonjour, enchantée. Moi, c'est Ami Robitaille. Je suis directrice de création chez Transversal. Je suis aussi cofondatrice. Moi, j'ai un gros bagage là, en tout ce qui est agence publicitaire, identité visuelle, design graphique aussi, par la bande.
Et bonjour, moi c'est Ganesh Baron-Alloire, je suis cofondateur chez Transversal et aussi directeur technologique. Mon background vient un petit peu plus de la recherche technologique. J'ai travaillé plusieurs années à la Société des arts technologiques. Puis après ça, j'ai travaillé plus comme indépendant dans le milieu du spectacle à grand déploiement, notamment chez 4U2C, qui était la boîte de production de contenu pour le Cirque du Soleil. Puis j'ai navigué un petit peu là dans tous ces spectacles-là avec, disons, une spécialité un petit peu plus sur tout ce qui est interactivité.
OK. Et donc, qu'est-ce que ça donne quand on fait entre une créative et un techno, on crée un studio, ça devient quoi?
C'est une bonne question. On s'est penché beaucoup justement sur le positionnement du studio dans la dernière année. Il y en a pas beaucoup des studios qui allient design et technologie. Donc effectivement, les deux, on vient d'un autre background que médias interactifs. Je dirais, ce qu'on n'a peut-être pas mentionné, c'est que Ganesh et moi avons étudié en design graphique, les deux. Okay. Donc ce que ça fait, c'est que ça nous fait vraiment une approche très similaire au projet. Une question justement toute de design thinking là, qui teinte beaucoup notre pratique de la technologie. Mais il faut dire aussi que moi, je suis une créative, mais intéressée par la tech. Ganesh, même chose, mais avec un penchant plus techno.
C'est ça. On a, disons, des points d'action qui sont différents, puis certaines réflexions, des fois, qui commencent de manière un peu opposée, mais qui viennent toujours se rejoindre un peu sur les mêmes problématiques qui sont plus centrales à certains projets. Je pense qu'il y a quelque chose aussi qui ressort de ces profils-là dans notre approche au studio, qui est, disons, une attention très particulière sur le contenu. Puis qu'est-ce qu'il veut dire aussi, au-delà d'être intéressant, beau, interactif, on aime ça qu'il y ait un propos un peu dans le contenu qu'on crée. Que je pense que c'est peut-être une force du studio, en fait, de l'approche design.
Oui, puis la réflexion m'est venue aussi du quand je travaillais en agence publicitaire, ben on cherchait souvent des partenaires pour faire des activations de marque, par exemple, mais qui n'avaient pas nécessairement cette sensibilité-là à la marque, à c'est quoi une identité visuelle, c'est quoi le design, c'est quoi un système graphique. Donc, je pense qu'on vient répondre justement à ces besoins-là dans l'industrie.
Et ça m'amène à vous poser la question et faire le lien avec la conférence que vous allez donner au WAC, qui est dont le titre est « Créativité numérique, nouvelle frontière de l'innovation ». Et ça m'a interpellé parce qu'on parle donc de créativité et de comment ça active l'innovation. Donc, et c'est, on s'entend, l'innovation, sans parler de l'AI, qui est un autre grand et immense buzzword dans notre milieu technologique en ce moment, l'innovation reste encore quelque chose qui peut-être va plus rechercher à la base. Hein. On a beaucoup d'entreprises technologiques au Québec. Beaucoup veulent innover, veulent faire leur transformation numérique. De quoi vous allez parler donc dans cette conférence-là là, en général? Ça m'intéresse.
Ben, l'innovation en soi, c'est aussi un buzzword. Je pense qu'il y a d'entreprises qui veulent innover. Dans notre cas, on va beaucoup parler de notre approche justement des projets, puis de montrer un peu comment la résolution de problèmes pour nous a été le chemin vers l'innovation. Donc, en fait, c'est de là justement toute la pensée en système. Donc, on cherchait un outil qui pouvait nous aider à traduire le mouvement, le visuel, le son, tout ça intégré dans un seul objet. Donc, c'est ce qui nous a mené à la création d'un prototype de bâton lumineux interactif. Mais je pense que tout ça ne serait pas arrivé si on n'avait pas eu justement cette réflexion design à la base. Donc, pour nous, c'est justement un petit peu parler de ce parcours-là qui va bien plus loin que le prototypage maintenant. Donc, justement, de montrer un petit peu tout ce qui est possible avec cette pensée en système.
Mais donc, là, maintenant, vous l'avez donc appliqué, tu dis, dans une startup, littéralement dans un projet que vous menez peut-être de front en même temps, mais là, c'est l'agence. C'est l'agence transversale. Et j'aime le nom transversale, d'ailleurs. Expliquez-moi pourquoi transversale, même si j'ai un doute.
Oui, bien, pour nous, ça a été une évidence, je dirais, ce nom-là. On travaille beaucoup dans la transdisciplinarité. Donc, justement, oui, le design, mais le design nous amène à travailler avec une multitude d'autres disciplines. Je pense que c'est ce qui garde vraiment cette approche-là très vivante. Puis, justement, dans la création qui est à l'intersection de toutes ces disciplines-là, comment créer un langage qui est commun. Donc, nous, c'est un peu ça notre vision de l'approche transversale. Je ne sais pas si Ganesh, tu veux rajouter quelque chose.
Oui, bien aussi, la manière dont on essaie de travailler avec les autres disciplines, j'ai l'impression que, disons, dans le passé, une des manières dont ça fonctionnait, c'est souvent, bon, on avait un meeting kick-off, chaque discipline a un peu des missions, tout le monde s'en va travailler sur sa mission, puis à un moment donné, ça se regroupe, puis ben des fois, ça crée des surprises, des fois des bonnes surprises, mais souvent des mauvaises surprises où, comme les disciplines ne se parlaient pas pendant la création, ben au final, quand on essaie de tout mettre ça ensemble, il y a des fois, ça marche pas, il y a des accros, il y a des trucs qu'on pensait que ça fonctionnait, qu'au final, une fois avec d'autres types de contenus, ça fonctionne plus aussi bien que ce qu'on l'avait imaginé. Donc, on essaie de rester dans une approche où chaque discipline se contamine un peu tout au long du processus, où on va essayer de donner les outils d'une discipline aux gens qui travaillent dans une autre et de voir comment ils se l'approprient, qu'est-ce que ça donne. Puis souvent, ça l'ouvre vers des nouvelles solutions, des nouvelles pistes de création aussi. Et on trouve que ça nourrit beaucoup le processus.
Particulièrement en technologie, là, parce que souvent les gens, ils nous approchent, ils ont une idée technologique, mais ils n'ont pas nécessairement réfléchi à qu'est-ce que ça impliquait dans toutes les autres sphères d'un projet. Donc, vraiment s'assurer que ce soit cohérent, qu'il y ait un fil qui vienne tisser tout ça.
Mais qu'est-ce que vous utilisez donc comme méthodologie pour arriver à faire ça? Tout à l'heure, Ami, tu as parlé de design thinking. Donc, vous devenez le ciment d'un projet numérique, si on veut, mais vous l'appliquez comment? Là, quand vous arrivez dans un projet, vous faites quoi? Vous dites quoi?
Oui, ben c'est vraiment une approche, en fait, que moi j'applique, que j'ai appris beaucoup justement dans mon passage dans les agences publicitaires, notamment chez Cossette, K72, mélanger aussi un petit peu de choses que j'ai apprises chez Moment Factory à l'époque. Puis c'est très itératif, on va pas se le cacher. Donc oui, ça prend une forte vision artistique et technologique dès le départ. Donc vraiment, on implique le plus possible toutes les parties prenantes dès le début du projet. Puis ensuite de ça, c'est vraiment devenir structuré de façon plus stratégique, je dirais, le projet pour répondre à certains objectifs. Puis ensuite de ça, on bâtit vraiment des territoires de création qui nous permettent de vraiment venir positionner le projet pour chacune des disciplines. Puis c'est là où est la nuance, je dirais, dans le projet, parce que ça prend une certaine précision pour s'assurer que ça part pas dans tous les sens, mais aussi une certaine ouverture pour s'assurer que chacun des intervenants puisse trouver son compte dans le terrain de jeu qui a été défini, délimité par le projet, pour essayer de faire ressortir parfois des tensions qu'on peut exploiter pour créer quelque chose de plus fort, mais parfois aussi des similitudes qu'on n'avait pas nécessairement soupçonnées dès le début, qui vont aider vraiment à créer un lien là, à chacun des éléments.
Et j'imagine... Oui, vas-y Ganesh.
Alors, ben aussi, je voulais juste rajouter, dans le fond, dans le processus itératif, ce qui est un truc qui est très important aussi, c'est de tester souvent et rapidement, surtout du côté technologique, où on va essayer de mettre dans les mains des parties prenantes qui vont utiliser cette technologie-là, un prototype assez rapidement, même s'il est très brut ou il est pas terminé, mais au moins, on va voir c'est quoi les enjeux, les limites qu'on a aussi, puis voir comment on peut résoudre certains problèmes techniques mais le plus rapidement possible. Comme ça, les gens qui vont utiliser cette technologie-là ont une meilleure compréhension de ce que ça peut faire, mais aussi des limites, soit physiques ou technologiques qu'on a. Puis pour l'équipe techno, ben c'est plus facile de trouver des solutions puis de contourner des problématiques ou d'arriver avec des nouvelles solutions par la suite.
C'est intéressant. Et dans la conférence que vous allez donner au Web à Québec, à la fin du mois, vous parlez aussi, il y a le deuxième point, je crois, où vous dites qu'il faut faire disparaître la technologie le plus possible. Pouvez-vous m'expliquer un peu votre angle là-dessus, que je trouve très intéressant?
Ben oui, tout à fait. Ben pour moi, la technologie, c'est un peu comme un tour de magie. Si un magicien fait un spectacle, puis on voit comment il fait, ben tout d'un coup, c'est plus vraiment intéressant. Je pense que, en tout cas, dans notre milieu qui est plus... Le spectacle, les installations et tout ça, ben tu sais, les gens veulent être émerveillés. Puis ultimement, de savoir qu'il y a un ordinateur super puissant en arrière, qu'on utilise des caméras infrarouges ou quoi que ce soit, peu importe les outils utilisés, ben pour le public, c'est pas vraiment important. Ce qu'ils veulent, c'est d'avoir une expérience, de se sentir c'est vraiment impliqué dans cette expérience-là, d'être en immersion. Mais ultimement, qu'est-ce qui est utilisé? C'est pas très intéressant, en fait. Ça l'est pour nous, les gens friands de technologie. On aime ça geeker là-dessus, c'est bien. Mais dans le fond, l'expérience doit se passer avec le moins de friction possible. Vraiment, l'idée, c'est d'augmenter l'expérience qu'on offre au public et pas de leur dire « regardez à quel point on est bon avec la technologie ».
Mais c'est intéressant que tu dises ça ou que vous disiez ça parce que, en fait, souvent dans les projets numériques au Québec, on voit que c'est beaucoup la technologie qui mène le spectacle, si on veut. Là, vous êtes dans l'événementiel. Je comprends le point que vous dites que la technologie doit disparaître le plus possible en principe. Mais souvent, on carbure beaucoup à la techno et on en oublie de faire la faire disparaître parce qu'en fait, c'est l'objectif final, c'est ce qu'on veut faire. Votre méthodologie pourrait s'appliquer à bien plus que l'événementiel. Vous pourriez être dans tout ce qui est numérique, en fait, là.
Oui, totalement. Puis je pense que chez Transversal, on a pris le parti pris de s'éloigner de tout ce qui demande un médium comme un casque, par exemple, pour consommer la technologie. On s'intéresse beaucoup à tout ce qui est intégration de la technologie in situ. Donc, justement, est-ce que c'est par de la scénographie? Est-ce que c'est en l'intégrant même à de l'architecture? Donc, ça, c'est vraiment des choses qui nous intéressent particulièrement, d'essayer de marier les dispositifs technologiques, parce qu'on va pas se mentir, on en a besoin pour faire arriver cette magie-là dont Ganesh parlait juste avant. Ouais. Mais si on est capable de bien l'intégrer, puis d'avoir ce souci du détail aussi, d'aller la camoufler pour que ça passe un peu plus inaperçu, je pense que ça va faire une belle différence.
Comme l'AI, on en parlait tout à l'heure comme buzzword, concept un peu à la mode en ce moment. On essaie de la faire disparaître en principe. Ce serait aussi un objectif. Vous allez l'utiliser, mais vous allez la cacher derrière l'expérience que vont vivre les gens, là.
Exact. Tout dépend vraiment de l'expérience puis du narratif qui a été développé autour de cette expérience-là. Je pense pas qu'on va avoir le temps d'en parler en détail, mais on a un projet dans lequel on utilise l'intelligence artificielle, mais on la met vraiment de l'avant, au contraire, dans ce projet-là, parce que ça sert le propos dans ce projet-là. Donc, il y a aussi un petit peu l'inverse qui peut s'appliquer dépendant du projet.
Puis elle est un peu personnifiée aussi, donc de cette manière-là, ça devient un personnage. Donc, on se le cache pas qu'on l'utilise, mais l'idée, c'est pas nécessairement de faire une démonstration de qu'est-ce que la technologie de l'intelligence artificielle, mais plus comment est-ce qu'elle peut créer un ressenti puis créer un lien avec le public.
Et qu'est-ce qui s'en vient chez Transversal dans les prochains mois, prochaines années? Dans quelle direction vous voulez amener ça? Où est-ce qu'on s'en va dans le rêve, là?
Ah, dans le rêve, j'adore cette question. on a quand même la capacité de réaliser nos rêves, je dirais. Dans les dernières années, on en a réalisé déjà quelques-uns, mais dans ceux qui s'en viennent, donc j'ai effleuré le sujet du bâton lumineux interactif tantôt. Il y aura une nouvelle vocation pour cet objet connecté. Donc, on développe présentement des structures autoportantes pour l'espace public. Donc là, on est à la recherche de villes qui pourraient être intéressées à présenter ce projet-là. Okay. Puis on développe aussi là, de toutes sortes d'autres propriétés intellectuelles. Donc, l'offre de services présentement, oui, mais beaucoup le développement de produits dans le futur.
C'est super intéressant. Ami Ganet, j'aimerais vous remercier beaucoup pour cette belle entrevue et on se revoit au WAC.
Oui, bien certainement. Super, au plaisir. Merci beaucoup.